Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez 100% ActuCac, podcast proposé par la CRCC de Normandie. Pour vous donner des clés de compréhension, vous apporter un nouveau regard sur des sujets juridiques, économiques et d'actualité, nous allons à la rencontre de personnalités stimulantes, éclairantes et passionnantes. L'ambition de ce podcast est de vous apporter de nouvelles connaissances pour enrichir votre activité professionnelle, mais également votre culture personnelle. Pour ce troisième épisode, nous avons le plaisir d'accueillir Sabrina Tancrel, professeure assistant en gestion des ressources humaines et développement personnel auprès de l'École de management de Normandie. Elle est également référente égalité CGE. Aujourd'hui, elle aborde le sujet de la qualité de vie au travail.
Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la qualité de vie au travail. Pourquoi aujourd'hui on s'intéresse à ce sujet et surtout quel est l'intérêt pour les organisations? Alors il y a cette idée finalement que depuis une quinzaine d'années maintenant en France, cette thématique du bien-être au travail est de plus en plus prégnante et de plus en plus importante. Alors, évidemment, une des raisons pour lesquelles ce sujet est de plus en plus prégnant, c'est que le travail reste un élément très important dans nos vies. Et surtout, en fait, toutes les enquêtes sociologiques sur la place du travail dans nos vies montrent que, en effet, les Français veulent réussir un peu toutes les facettes de leur vie. Donc leur vie professionnelle, bien sûr, mais aussi leur vie familiale, les relations amicales, la sphère des loisirs, etc. Et donc, voilà, finalement, cette quête du bien-être dans ces multiples dimensions de nos vies fait que, voilà, on a aussi d'énormes attentes donc en termes de bien-être et en termes d'épanouissement personnel. Une des raisons pour lesquelles on s'intéresse aussi beaucoup à cette question de la qualité de vie au travail, c'est le temps que l'on passe au travail. On passe en moyenne, en fait, un individu passe un tiers de sa vie à travailler. Hein, donc c'est une moyenne, hein, parfois c'est un peu moins, parfois c'est beaucoup plus. Et donc voilà, il y a cette idée que puisque nous y passons beaucoup de temps, et bien qu'on est quelque part en droit d'attendre aussi de la qualité de vie et du bien-être dans cette sphère aussi. Il y a une autre raison pour laquelle on s'intéresse à cette question de la qualité de vie au travail, c'est que on sait aujourd'hui, parce que de nombreuses études scientifiques le démontrent, on sait qu'il y a une corrélation entre bien-être au travail et performance individuelle au travail. Donc là, il y a de nombreuses enquêtes qui ont émergé aux États-Unis au début des années 2000. On a commencé justement à s'intéresser à cette question de comment ou de quelle façon, en fait, le bien-être au travail est corrélé à la performance. Et donc, on sait aujourd'hui que voilà, un salarié ou un collaborateur heureux au travail est 3 fois plus productif. Il est beaucoup plus créatif également, il prend des décisions beaucoup plus facilement. Et donc voilà, il y a cette corrélation entre bien-être et performance et bien-être et productivité qui est corroborée par de nombreuses enquêtes. Une des raisons, et peut-être c'est celle qui nous met le plus en action sur ces questions de bien-être au travail, c'est aussi qu'il y a beaucoup de mal-être. Et c'est vrai que ça, alors moi je suis chercheure, donc on observe aussi évidemment les recherches académiques sur ce sujet. Et c'est vrai que jusqu'à 2010, toutes les recherches en fait sur l'organisation du travail parlaient du stress et de la souffrance au travail. Et voilà, depuis voilà une dizaine, quinzaine d'années, on est plutôt sur cet angle positif de comment voilà promouvoir le bien-être au lieu de toujours penser à prévenir le stress, le mal-être, la souffrance etc. Mais c'est vrai qu'une des raisons pour lesquelles on parle beaucoup de bien-être au travail aujourd'hui, c'est quand même parce que on sait, et les chiffres le montrent, qu'il y a aussi beaucoup de mal-être dans les entreprises. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup d'organisations s'attellent à ce sujet aujourd'hui, hein, parce que on sait que le mal-être au travail génère un coût démentiel, un coût individuel évidemment, mais aussi un coût pour l'entreprise, hein, puisqu'on estime que 50% des arrêts de travail sont dus à du stress et de la démotivation. Donc, ça génère un coût pour l'organisation, ça génère un coût aussi pour la société, hein, en termes évidemment de frais médicaux, de journées de travail perdues, etc. Et donc, c'est vrai que ça explique le fait que aujourd'hui, voilà, beaucoup d'entreprises s'engagent en fait dans cette démarche de qualité de vie au travail. Alors, qu'est-ce que c'est que la qualité de vie au travail ? Alors, il y a une définition évidemment qui a été formulée de manière un peu officielle, hein, par l'accord national interprofessionnel donc de 2013, hein, sur la qualité de vie au travail en France. Et en fait, qui propose une définition alors très large. Hein, quand on a cette définition, on se dit, bon voilà, c'est vrai que si on a tout ça au travail, évidemment qu'on va être certainement heureux dans son travail. Donc, cette définition, c'est la suivante. Hein, la qualité de vie au travail, elle peut se concevoir comme un sentiment de bien-être au travail. Ce bien-être doit être perçu collectivement et individuellement. Hein, c'est-à-dire que voilà, on n'est pas tout seul à expérimenter ou à ressentir ce bien-être. Il doit être voilà, ressenti individuellement et collectivement. Et ça englobe plein de choses. Ça englobe l'ambiance de travail, la culture de l'entreprise, l'intérêt du travail, les conditions de travail, évidemment, hein, l'espace, par exemple, dans lequel on exerce son activité, le sentiment d'implication, le degré d'autonomie et de responsabilisation, l'égalité, hein, c'est-à-dire le fait de se sentir traité avec équité, un droit à l'erreur, une reconnaissance et une valorisation du travail effectué. Donc ça, c'est la définition que propose cet accord national interprofessionnel de 2013, hein, qui, évidemment, fait nous questionner sur un certain nombre d'éléments qui sont importants, évidemment, dans l'implémentation de la qualité de vie au travail. Alors, ça, c'est un petit peu la théorie, hein, c'est-à-dire, c'est, bon, évidemment, quand on implémente ou quand on s'engage dans une démarche de qualité de vie au travail, voilà les éléments sur lesquels on doit travailler et on doit agir. Et ce qu'il est important aussi, peut-être, de souligner, parce que j'ai parlé, justement, tout à l'heure du stress et de la souffrance au travail, qui est un des enjeux aussi, hein, de la mise en œuvre de la qualité de vie au travail, c'est que c'est pas parce que, on le sait ça aujourd'hui en recherche, c'est pas parce qu'on supprime les sources de stress et les sources de souffrance au travail qu'on va, voilà, implémenter la qualité de vie au travail. Parce qu'on sait que, voilà, dans les études scientifiques, ce sont des leviers différents. Donc évidemment, une des premières étapes lorsqu'on s'attelle à la qualité du travail, c'est supprimer les sources de stress et de souffrance. Mais ça ne suffit pas. Hein, c'est-à-dire, voilà, dans certaines entreprises, on a par exemple des services de voilà prévention des risques psychosociaux ou de voilà promotion de la sécurité et de la santé au travail. Mais finalement, ça, c'est une première étape. Après, il faut compléter cette étape par justement d'autres leviers qui vont davantage œuvrer à la qualité de vie et au bien-être au travail. Et ça, on peut effectivement en discuter, parce que c'est vrai que depuis une quinzaine d'années, on a quand même suffisamment de recul sur voilà les études scientifiques qui se centrent sur les facteurs de bien-être au travail. Donc on a par exemple beaucoup de travaux en psychologie positive. Alors la psychologie positive, c'est une discipline qui a une vingtaine d'années. Alors c'est pas voilà tout est beau dans un monde parfait, mais c'est plus voilà au lieu de s'intéresser. Alors historiquement, la psychologie, elle s'est intéressée à l'individu qui va mal, hein, et essayer voilà de proposer des solutions pour que l'individu guérisse. Donc, c'est ce qu'on appelle, voilà, plutôt l'angle négatif de la psychologie, mais c'était l'approche classique, nécessaire, hein, puisque la psychologie est née juste après la Seconde Guerre mondiale, et effectivement, ce qu'il fallait, c'était, évidemment, guérir les traumatismes de guerre, principalement. Mais la psychologie positive, elle va s'intéresser alors à l'angle positif, c'est-à-dire au lieu de s'intéresser à l'individu qui va mal, elle va s'intéresser à l'individu qui va bien. Dans quel environnement, dans quelles conditions finalement l'individu s'épanouit. Et c'est vrai que la psychologie positive a apporté beaucoup d'éléments et d'éclairage sur les déterminants du bien-être dans la sphère professionnelle. Et ce qu'on voit principalement dans la psychologie positive, c'est pourquoi un individu est heureux dans son travail. Alors, c'est souvent parce que il y a de l'engagement, il y a du sens. Et en fait, cet engagement et ce sens au travail fait que l'individu va vivre des moments, alors qu'on appelle des moments de flow en psychologie positive. C'est-à-dire, c'est ces moments, finalement, où on est tellement absorbé et concentré sur son travail, sur la tâche qu'on est en train d'effectuer, que on est dans cette bulle, un peu, où, alors ça arrive pas évidemment tous les jours, mais c'est vrai quand on a la chance de vivre ces expériences au travail, on est dans cette bulle un peu où on a le sentiment de maîtriser parfaitement la situation, de déployer ses compétences, la notion du temps, de l'espace disparaît, y compris en fait la conscience de soi hein, parfois. Et c'est cette idée, voilà, qu'on est transporté dans voilà l'activité qu'on est en train de réaliser. Donc ça a été théorisé il y a quelques années par un scientifique qui s'appelle Csikszentmihalyi, qui a publié énormément de travaux justement sur ces expériences de flow. Les expériences de flow, statistiquement, on en vit le plus au travail. Et donc voilà cette question du bien-être au travail, elle est très en lien en fait avec voilà le fait de vivre ou d'avoir l'opportunité de vivre ces moments de flow dans la sphère professionnelle. Donc voilà, on sait que le bien-être au travail est très lié en fait à cette notion de sens, d'engagement, de flow au travail. Et c'est vrai que dans le flow, ce qui est intéressant aussi, c'est que le flow est vraiment le parfait équilibre entre un niveau de challenge relativement élevé, donc qui va permettre finalement à l'individu de pouvoir déployer ses compétences. Donc, il faut quand même qu'il y ait un niveau de défi qui soit adapté au niveau de compétence. Et en fait, voilà, le flow, c'est le parfait équilibre entre les deux. Il n'y a pas de flow quand il n'y a pas de défi, en fait. Et donc, ça ébranle un petit peu, hein, ça déstabilise l'idée que voilà, le bien-être au travail, c'est un peu voilà, le monde du bisounours, où finalement, voilà, on est bien dans son entreprise, on est bien... Non, le bien-être au travail, c'est aussi... trouver finalement l'activité, le travail qui va vous permettre de réaliser en fait des challenges, d'atteindre des objectifs, mais tout ça dans voilà l'adaptation à nos compétences et aussi dans le plaisir de l'activité qu'on est en train de réaliser. Donc voilà, les études montrent que le sens, l'engagement, le flow est un élément très important du bien-être au travail. Il y a aussi la question du lien. On sait que le bien-être au travail, c'est aussi un lien, on va dire, positif, un lien apaisé, un lien stimulant avec ses supérieurs, avec sa hiérarchie, mais aussi avec ses collègues. Et ça, c'est pareil, ça revient dans toutes les études, hein, que la connexion en fait aux autres est un élément important. Alors c'est un élément important dans le bien-être en général. Hein, toutes les études sur le bonheur, par exemple, montrent que la dimension relationnelle elle est essentielle. Donc ça vaut aussi évidemment au travail. Il est très difficile d'être heureux en fait dans son travail lorsqu'on a des relations de tension, de crispation, de défiance dans l'environnement professionnel. Donc il y a la dimension du lien. Il y a aussi la notion de plaisir dans le travail. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la dimension hédonique du bien-être. En fait, le bien-être, il y a à la fois le bien-être hédonique, donc c'est-à-dire c'est cette recherche finalement du plaisir au travail. Donc le plaisir au travail, on peut l'avoir à travers plein de choses. On peut l'avoir dans l'activité, c'est-à-dire finalement on aime son travail et on a plaisir à venir le matin au travail, on a plaisir à exercer son activité. Il y a aussi tous les moments de convivialité qui participent à ce bien-être hédonique. Donc c'est des moments d'échange, des moments où on célèbre par exemple des réussites d'un service, d'une entreprise. C'est des after work, ponctuellement où on va retrouver ses collègues ou autour d'activités, de team building, etc. Donc ça peut être sous plein de formes différentes. Cette question du plaisir, de cultiver en fait le plaisir au travail, c'est aussi un élément déterminant du bien-être. Il y a aussi dans le bien-être ce qu'on appelle le bien-être eudémonique. Donc le bien-être eudémonique, alors c'est un peu un terme barbare, mais finalement qui est très facile à comprendre. En fait, eudémonique, ça vient de daimon. Et daimon, ça veut dire, donc c'est un concept philosophique d'Aristote qui nous dit que les gens heureux sont les gens qui ont trouvé leur daimon. Donc leur daimon, c'est leur nature profonde. Et en fait, le bien-être démonique, c'est lorsqu'un individu a trouvé finalement le métier ou l'activité ou le travail qui va lui permettre de se sentir aligné finalement, entre lui, sa mission dans la vie, sa mission au travail, il y a un alignement parfait. Hein, et donc, le bien-être démonique, c'est véritablement ça, c'est trouver l'activité, le travail, la mission qui va nous permettre d'être en congruence avec soi et en alignement avec sa nature profonde, qui l'on est vraiment. Et c'est vrai que les études montrent que les gens qui ont trouvé en fait ce bien-être eudémonique, qui se sentent accomplis parce que finalement ils sont en accord parfait, en phase avec leurs valeurs et avec ce que leur donne, ce que leur offre l'entreprise, sont des gens en général, qui vont être très très satisfaits et très heureux dans leur vie. Hein, donc ça c'est un peu les déterminants du bien-être. Alors il y a plein de recherches aux États-Unis qui vont dans ce sens et qui explicitent un petit peu les facteurs qui contribuent au bien-être au travail. Il y a plusieurs chercheurs aussi en France qui travaillent sur ces sujets. Il y a notamment en France un modèle qui s'appelle le modèle Slack, qui est une modélisation de ce que c'est que le bien-être au travail. Alors c'est une recherche qui a été menée sur des milliers de salariés, de collaborateurs en France. Hein, le modèle Slack, c'est pour sens, lien, activité, confort. C'est-à-dire le bien-être au travail, c'est d'abord du sens, c'est du lien, c'est une activité qui nous plaît et le confort renvoie en fait aux conditions matérielles de travail, c'est-à-dire un environnement physique favorable et propice finalement à la au travail, à la concentration. Et alors peut-être revenir aussi sur un petit peu ce que mettent en place les entreprises pour favoriser ce bien-être au travail. C'est vrai que ce qu'on observe, nous, chercheurs, sur ce que peuvent mettre en place les organisations, c'est souvent, il y a d'abord des choses qui sont mises en place en termes de prévention du stress. Hein, comme je le disais, on peut pas s'engager dans une démarche de qualité de vie au travail si on s'attelle pas aux sources, voilà, l'identification des sources de stress et de souffrance dans l'organisation. Même si ça ne suffit pas, c'est quand même une étape nécessaire, importante et indispensable en fait dans une démarche QVT. Donc voilà, on a d'abord ces actions qui sont mises en place, qui vont œuvrer voilà à la santé mentale, à la sécurité physique, à la prévention du stress, hein, pour justement favoriser voilà une bonne hygiène de vie, des attitudes, des comportements de vie sains, voilà des risques psychosociaux que l'on souhaite réduire. Après, il y a souvent des actions qui vont être mises en place sur la culture d'entreprise, c'est-à-dire comment, en fait, on construit une culture d'entreprise qui soit favorable au bien-être. Et ce qu'on observe dans les études, c'est que c'est souvent, en fait, les entreprises où il fait bon vivre, il y a souvent des réflexions qui ont été menées sur l'organisation du travail, par exemple. Une organisation du travail souvent moins rigide, plus flexible, plus ouverte, avec des pratiques managériales qui vont favoriser en fait l'autonomie des individus, le droit à l'erreur aussi, le droit de se tromper, le droit d'apprendre. Il y a aussi voilà tout un tas d'actions qui sont menées sur donner plus d'initiative aussi, plus de responsabilité aux collaborateurs, aux équipes. Alors ça, pas dans un but de les surcharger, mais toujours dans ce but finalement de trouver la bonne activité, la bonne mission pour le bon ou la bonne collaboratrice. Donc cette idée finalement d'adapter toujours l'activité, le travail à la personne pour justement favoriser ces moments de flow hein, dont je parlais tout à l'heure, puisque le flow, il faut du défi. Il en faut pas trop, parce que si il y a trop de défis par rapport aux compétences de la personne, on va tomber dans l'anxiété et le stress. Si au contraire, il y a peu de défis, beaucoup de compétences, on va tomber dans l'ennui. Hein, mais vraiment, le flow, c'est cette idée que on a trouvé le juste, la juste mesure hein, entre défis et compétences. Souvent aussi, dans les entreprises, hein, on met en place des politiques qui aussi œuvrent à davantage d'équité. Alors, il y a des entreprises, par exemple, dans certaines entreprises libérées. Alors, les entreprises libérées, c'est un peu ces entreprises pionnières, entre guillemets, qui essaient d'avoir un management très horizontal, où il y a des prises de décisions très collégiales, où on essaie, voilà, d'un peu d'exploser hein, ce modèle pyramidal des entreprises qui, parfois, fait beaucoup de mal. Mais dans certaines entreprises libérées, voilà, on s'est engagé sur beaucoup de transparence, beaucoup d'équité, sur comment les décisions se prennent, comment on rémunère les collaborateurs, sur quels critères. Donc vraiment un effort hein, de transparence et d'équité par rapport à tout ça. Et c'est aussi hein, la reconnaissance du travail, évidemment. Alors en France, on n'a pas de très bons chiffres hein, sur la reconnaissance dans les entreprises. Et c'est vrai que le bien-être au travail, c'est aussi reconnaître hein, le travail fourni hein, et le travail réalisé. Juste pour peut-être terminer sur cette question du travail et de ses impacts. Alors là aussi, hein, il y a énormément de travaux sur qu'est-ce que ça apporte d'investir entre guillemets sur le bien-être au travail. Donc on sait de par de multiples études scientifiques que un salarié heureux, alors ça c'est plutôt des études d'Harvard et du MIT, hein, Massachusetts Institute of Technology, qui ont fait quelques études et des études qui sont récurrentes régulièrement où on retrouve aussi ces chiffres. Un salarié heureux est 2 fois moins malade, il est 6 fois moins absent, il est 9 fois plus loyal. Aussi, on sait que alors ça, on essaie à chaque fois hein, de de quantifier, même si c'est très difficile, mais en gros, voilà, quand on investit dans du bien-être, on sait qu'il y a une augmentation de la productivité. Alors, selon les études, hein, c'est entre 15 et 25%, donc une productivité accrue. On sait aussi que plus un individu, en fait, est heureux dans son travail, et plus, alors ça, ce sont des théories en neurosciences, hein, qui montrent que ça a des effets sur le cerveau, hein, et alors c'est ce qu'on appelle la théorie Broaden and Build, c'est-à-dire que plus on va vivre d'émotions positives au travail, et plus finalement son cerveau finalement va élargir ou va augmenter ses ressources mentales, ses ressources intellectuelles, et il va construire finalement des compétences beaucoup plus importantes. Donc c'est vraiment, voilà, il y a cette question de plus j'investis dans le bonheur de mes équipes, hein, et plus finalement elles vont être performantes et elles vont développer de nouvelles ressources, de nouvelles compétences. Cette démarche, elle est rentable, hein, même si j'aime pas ce terme, hein, mais c'est vrai que investir, voilà, dans la qualité de vie au travail, évidemment, à moyen long terme, eh bien, ça génère évidemment beaucoup d'effets, d'impact positif, à la fois pour l'individu, mais aussi pour l'entreprise. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Et j'espère, voilà, que ces quelques éléments d'information vous permettront, voilà, un éclairage assez pertinent sur cette notion de qualité de vie au travail.